C'est la deuxième heure de ce 1177e Sweet Home Chicago. L'invité de la semaine, David Noël des Super Soul Brothers. Je suis au téléphone avec David Noël. Bonjour David.
Bonjour à tout le monde.
Comment ça va? Un petit point météo sur la région de Pau peut-être, ça serait intéressant pour nos amis normands.
Très très beau soleil aujourd'hui, on a beaucoup de chance, il fait beau et c'est très chouette. Et puis ça me permet de souhaiter une très belle année pleine de douceur et d'amour à tous les gens qui vont écouter.
Mais de toute façon, il fait toujours beau dans le Béarn. Hein,
on a un petit peu de chance, ouais. Voilà. Tant que c'est pas la saison des pluies, on a toujours une certaine douceur ici.
C'est parfait. Alors, David Noël, si je te téléphone aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie d'un super groupe qui s'appelle les Super Soul Brothers. Et puis, on t'a vu dans nos contrées normandes il y a quelques semaines. C'était dans la belle salle de la Traverse à Cléon, lors d'une première partie. Tu t'en souviens forcément de cette date-là?
Oui. J'ai adoré cet endroit.
Tu avais été bien accueilli, dis-moi.
Ah, formidable. Ouais. Formidable. Des gens d'un professionnalisme incroyable et un sens de l'accueil. On ne peut donner que son meilleur. C'était vraiment chouette.
Bon, propose, il y a des auditeurs qui t'ont déjà écouté, bien sûr, et puis d'autres qui vont te découvrir aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'était que tu nous parles un petit peu de toi et de ta mise à la musique. À un moment donné, tu as forcément écouté des disques. Alors, je ne sais pas à quel âge. Tu as forcément...
Alors, moi, je suis un enfant de la musique. J'ai une mère qui est une fan de musique afro-américaine. Donc, j'ai grandi avec ça, moi. Je n'avais que ça à la maison. Et c'est vraiment mon ADN. Et en écoutant James Brown ou Otis Redding, c'est vraiment des gens qui m'ont marqué à vie des petits. Ma mère avait un pick-up, pour la petite anecdote, un pick-up à l'ancienne où on pouvait empiler des disques, soit des 33 tours avec une tige au milieu, il y avait, soit des 45 tours avec un adaptateur. Et c'était comme un jukebox en fait, donc ça tombait et on pouvait j'avais écouté plein de disques. Et donc, chez moi, tournais régulièrement. Donc, je vous ai dit Otis Redding, James Brown, Sam & Dave, Aretha Franklin. C'était une fan, et c'est toujours une fan, parce qu'elle continue à me faire découvrir des choses, ma mère, c'est assez marrant.
Donc, déjà de la soul music, un petit peu comme...
Moi, c'est vraiment mon marqueur. C'est une musique qui fait partie de moi intégralement, quoi.
Voilà. En dehors du fait, David, d'en écouter, étant très jeune, est-ce que tu as commencé à chanter? Est-ce que tu as commencé à jouer d'un instrument étant petit?
Pour une autre anecdote, en fait, moi, pendant très longtemps, je souffrais d'asthme profond, avec choc anaphylactique, etc. Et le pneumologue avait dit qu'il faut vraiment travailler le souffle. Et il avait dit qu'il y avait trois façons, soit un instrument avant, soit faire de la natation, etc., de la marche, faire quelque chose qui facilite le souffle, soit du chant. Et mon premier choix, ça avait été un instrument de musique.
Ouais.
Et j'étais très jeune, on m'avait mis un saxophone entre les mains.
Ah, carrément.
J'avais sorti un souffle, un son quasiment horrible, et j'étais rentré pétrifié en disant « Ben non, en fait, je ne sais pas jouer du... Je ne pourrais jamais, quoi. » Comme je ne suis pas très fan de sport, je me suis retourné vers le chant, en rentrant dans une chorale à la base, comme plein de gens, et ça a été un révélateur. Chanter, c'est « Chante, tu vas mieux ». Et donc le chant, et finalement l'asthme, m'a donné une voix... Et une voix, les deux.
Et ça t'a donné, semi-échec de l'expérience du saxophone, ça t'a pas donné l'envie d'essayer un harmonica,
non,
par exemple?
Dans ma tête, quand on est petit, parce que j'étais vraiment très très jeune, je pensais qu'on soufflait et on sortait quelque chose d'incroyable.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Donc je suis rentré profondément déçu, j'ai dit non, je veux plus jamais souffler là-dedans.
Voilà.
Ce que j'ai jamais refait... depuis, d'ailleurs. Et c'est assez marrant.
Et pourtant, tu es entouré de cuivre. Hein. On va en parler tout à l'heure de ta formation. Il y a des gens qui pourraient te faire tâter, par exemple, du trombone à coulisses ou de la trompette ou du saxo,
oui,
assez
ouais,
facilement.
Ça, je m'y ferme pas, mais mon truc, c'est vraiment le chant et l'interprétation. Et j'ai passé ma vie à travailler ça, quoi, en fait. Je suis dans une espèce de bulle de bonheur quand je suis sur scène. Et, j'aime y être et j'aime y inclure les autres. Je me dis...
Ça s'entend, hein, David, en tout cas. Ça va faire partie, effectivement, des questions que je vais te poser par rapport à ta présence scénique. Effectivement, ça va mieux en le disant, parce que tout le monde t'a pas encore vu sur scène, mais à partir du moment où on te voit une fois, on se dit, tiens, c'est pas un coup de bol. En fait, il est né sur scène, ce garçon.
Je suis très heureux de là où je suis, parce que finalement, naturellement, c'est là où j'aime évoluer, où je me sens bien, où je sais que je peux faire aussi du bien aux autres. Et voilà, il y a une espèce d'émulation qui, sur 1h40, 2h, permet d'être ailleurs. Tous et voilà. Ça fait du bien, surtout pour les temps qui courent, on a besoin de s'alléger. Moi, je me mets vraiment dans une universalité avec mes copains. On chante et on fait tout ça pour tout le monde. Je cherche à réunir.
Mais derrière, on sent une certaine simplicité des choses aussi, quelque part. Alors, bien sûr, il y a des arrangements travaillés dans votre musique. Bien sûr, vous êtes ensemble, c'est cohésif, c'est très bondissant, mais en même temps, on sent que ça coule tout seul, quoi.
Je pense qu'il y a des choses naturelles qu'il ne faut pas réfuter. Et puis, je pense que jouer simple et être simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce qu'on est nu, on est vrai. Je trouve qu'on évolue dans un monde où il y a trop de fake. J'essaie d'enlever le maximum de tous ces filtres-là pour être le plus vrai possible, parce que c'est là où je me retrouve. Si je commence à tomber dans des travers, je me dévoie moi-même et on est tous les 8 sur le même état d'esprit, quoi. Voilà, donc on avance comme ça. Like
David, je reviens sur tes jeunes années. En dehors du fait de chanter pour ta maman et pour tes amis, est-ce qu'il t'est arrivé, étant collégien, lycéen, de monter des groupes et puis ben, voilà, de
te produire... C'est exactement ça. À l'âge de 16 ans, en fait, j'ai monté mon premier groupe qui avait un nom qui s'appelait Magic Shoes. C'était le premier groupe qui était un groupe de blues hard rock. Et qui avait, en fait, on était fan de Flying the Tox à l'époque. C'était un grand groupe magnifique, toulousain. J'espère qu'un maximum de gens auront vu ce groupe une fois dans leur vie, parce que c'est un marqueur qui nous a... Moi, je continue à avoir ça en moi. Enfin, c'était vraiment... Ça fait partie des groupes qui m'ont dit, ben, je peux chanter de l'autre côté. Mm-hmm. C'est là que c'est important, parce qu'en fait, moi, je croyais que tous les artistes, quand j'étais jeune, c'était des élus, en fait. Otis Redding, pour moi, on l'avait pris, on lui avait dit, ben voilà, t'as du talent, machin. À l'époque, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas lire, il n'y avait pas énormément de bio non plus, donc c'était très compliqué d'avoir les informations, comme quoi il y avait eu toute une évolution et un travail et apprendre et beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes. Et quand on voit des groupes près de chez soi qui sont d'une importance capitale, c'est pour ça que j'adore aussi des concerts de troquet et tout ça, pour cette proximité, cette vérité, et donner l'envie, parce que ça devient passeur à ce moment-là. Et moi, j'ai pris l'énergie de tous les groupes qui ont fait ma jeunesse, en fait, à côté de chez moi. Il y avait Sax Machine.
Alors, est-ce qu'on peut également évoquer, tu parlais de Fly on the Tox à Toulouse, il y a un groupe emblématique à Toulouse que tout le monde connaît, c'est AWEC.
AWEC, avec qui on a partagé, enfin, c'est marrant, parce qu'on a fait Jazz in Martiac cette année, et on s'est retrouvés sur la même affiche avec AWEC. Donc, effectivement.
Puisqu'on en est au stade des influences, alors on a parlé de quelques Américains tout à l'heure avec James Brown, Otis Redding et quelques autres. Il y a d'autres Français peut-être qui ont tracé leur route parallèlement à la vôtre et qui ont interagi avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres formations comme ça auxquelles tu penses?
En français, pas forcément, à part...
J'avais un groupe à te soumettre, un groupe qui vient d'Albi, c'est pas exactement par chez toi parce que tu es à Pau, mais ça reste dans le sud-ouest, c'est les BL Blues. Est-ce que ça te parle, ça?
Alors, ça ne me parle pas du tout. Par contre, les Flying Saucers, Gumbo Special...
Ah bah oui,
oui,
voilà, aussi, oui.
Ça, c'est des personnalités importantes. C'est la génération qui est juste avant moi. Et Fabio, tout ça, c'est vraiment des gens magnifiques, de grands talents et de grandes vérités aussi.
Et qui sont ensemble depuis de nombreuses années. Ça fait juste avant l'an 2000, je crois, pour les Flying Saucers sur Bordeaux.
C'est des gens ultra importants, où il y a même Didier Serré chez nous à Pau, pour être plus proche, avec les Bootleggers, qui sont des gens, ou aussi Ricky Amigos, je vous parle vraiment de ma région, là,
bien sûr.
Qui sont des gens qui sont arrivés à avoir de la lumière, etc., et qu'on pouvait voir à côté chez soi. Et à partir de là, je me suis dit, moi aussi, je peux faire de la musique, il n'y a pas de raison. Et donc, j'ai monté un premier groupe qui s'appelait Magic Shoes, avec plein de copains, avec lequel d'ailleurs, on jamme de temps en temps encore, parce qu'il y a une belle osmose à Pau, avec des gens qui s'apprennent avec lequel on peut faire de la musique.
Il y a une très très belle scène.
On peut avoir le plaisir d'en faire.
On peut citer Miss Beyond the Bullfrogs, on peut citer Nico Wayne Toussaint. Voilà, il y a des artistes
Nico,
sur
Pau. Nico, Michel Foison.
Voilà. Avec Gladys, par exemple.
Tout le melting pot pas loin.
Tout à fait.
Des gens qui ont plaisir de jouer les uns avec les autres, de se voir, de se parler. Et voilà. Et puis on est content d'être passeurs aussi, parce que quand on voit Miley et Jean reprendre le flambeau derrière, qui seront les prochains passeurs, nous, ça nous fait chanter le cœur, et c'est vachement important de savoir que derrière une autre génération qui va continuer à faire connaître cette musique et à la transmettre. Finalement, comme elle est très peu représentée dans les médias, il y a une forme de vérité. Finalement, c'est pas plus mal, parce que elle n'est pas dévoyée, elle reste pur, voilà, et ça c'est important. Have you ever heard about us? We dress up for you. That's magic drops. I know what black and white suit. Tonight we are for you. We're gonna make this so good. Let's jump and shout. Shoes, gonna make you sweat and jump all around. Don't be afraid and join us and explore the good bad trends. Together we're strong, create a big mess. Super soul, we got super soul. Super soul,
David, une question que je pose à tous les Palois que j'interviewe en ce moment, il y en a beaucoup. Tu as connu Jacques Morgantini ?
J'ai connu Jacques Morgantini, pas personnellement, mais on s'est rencontrés plusieurs fois, on a parlé une des dernières fois, parce que moi je suis un fan de claquettes américaines et j'en ai fait pendant très longtemps.
Ah oui ?
Et il était venu voir un spectacle et je connais l'importance capitale. Et j'aimerais que cet homme et son histoire soient un peu plus connus en fait.
Eh ben grâce par exemple à notre ami commun Jacques Gasser qui a fait Mémoire de blues.
Ouais, avec Mémoire de blues, il a fait un super boulot, mais j'aimerais que ce doc passe un peu plus même sur les sur l'ensemble des chaînes de télévision, que ce soit Netflix ou autre, enfin etc. Parce que il y a plein de stories sur des labels que j'ai pu voir, documentaires très très poussés, que ce soit sur Stax ou High Records, etc. Mais c'est quand même l'un des premiers à avoir créé un label en France sur le blues.
Avec son épouse.
Et voilà.
Marcel.
Il mérite d'être connu, de savoir toute son histoire qui est incroyable avec sa femme, quoi. C'est magique.
Effectivement. Alors, David, dans la région de Pau, on vient de citer un certain nombre de noms. Et puis, si on élargit davantage, il y a forcément des influences un petit peu partout. Et puis, ce côté passeur, ce côté je porte le flambeau parce qu'on me l'a donné et je vais aussi le donner aux plus jeunes. C'est ça qui t'anime, finalement. C'est la passion de la musique et puis aussi le partage. Ça, on s'en rend bien compte quand on vous voit sur scène parce que bah, les autres ne sont pas en reste. Hein, ils ne sont pas derrière en train de taper sur la batterie et de distiller les notes de basse ou de clavier ou de cuivre. Il y a une véritable osmose. Enfin, moi, je ne vous ai pas vu sur 1h40 ou 2h, je vous ai vu sur une première partie, donc un petit format de 45 minutes. On a assisté à un best-of, finalement. Est-ce que ce n'était pas un peu frustrant, justement, ce concert-là de l'automne dernier, où vous deviez faire 800 bornes dans un sens, 800 bornes dans un autre, et jouer juste 3 quarts d'heure entre deux? C'est hallucinant.
Ça, c'est la vie du musicien. L'important, c'est de donner ce qu'on a à donner sur le temps qui est imparti. Pour nous, il y a autant d'importance à jouer 45 minutes qu'à jouer 1h30. C'est même plus fort d'arriver à faire passer son univers en très peu de temps.
Tout à fait.
Et d'arriver sans penser qu'on ait une première partie. Parce que moi, je n'aborde pas les concerts comme ça. Je fais un concert. Voilà, il se trouvait qu'on jouait avant New Blues Generation. Mais ce qui est important, c'est d'amener tout son univers sur une courte période et se dire, la prochaine fois, j'irai la voir un peu plus sur un timing un peu plus long. Parce qu'on a énormément travaillé pour avoir un show consistant et fort et puis joyeux et généreux où on va tous se renvoyer la balle et s'inclure, parce que moi les gens qui viennent voir un spectacle sont extrêmement importants. Je trouve que il est temps de revenir à des fondamentaux. Le public lambda qui vient payer sa place et qui s'assoit et puis l'artiste qui arrive en disant regardez-moi et puis ça s'arrête là, c'est fini. Il faut qu'on revienne à des choses qui soient plus fortes.
Ça existe aussi et puis il y a des gens qui sont là pour ça.
Beaucoup trop.
Mais effectivement, on le sent, hein, de toute façon, la passion qui pointe au chaque détour de tes phrases, David, et puis ton envie de partage, finalement, c'est la musique, c'est fait pour être partagé, c'est comme l'amour et l'amitié, non ?
C'est exactement la même chose, et puis c'est surtout ce qui permet de la fraternité entre tout le monde. Tous les grands artistes que j'aimais étaient dans cette universalité. Quand on voit les grands concerts qui permettaient d'aider certaines causes, on peut voir sur tous les années 70 et 80, c'est quand même tous des artistes à un moment qui montaient sur scène et qui mettaient en avant quelque chose. On nage dans un truc qui est très complexe en ce moment, et donc autant revenir à des choses simples et vraies et qui parlent à tout le monde et qui fait du bien à tout le monde. Et la division, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Donc, une salle de spectacle, c'est une force. Et j'ai toujours pensé, moi, que la musique pouvait faire évoluer les choses et les mentalités, et je le crois toujours. C'est pas du tout une utopie, dans la mesure où on vient et si on essaie de réunir tout le monde, qu'importe ce qu'il est, comment il est, ce qu'il pense, à un moment précis, pendant 1h40, eh ben, il fait bloc avec l'artiste et il oublie tout ce qui peut le séparer des autres.
Oui, tout à fait, voilà.
Et ça, c'est magique. Mmh. Et à chaque fois que j'en ai vraiment conscience, maintenant, quand je monte sur scène, je vais pas faire que de la musique. Je sais que à côté, il y aura des gens qui, habituellement, sur Twitter ou sur d'autres trucs, vont se cracher dessus. Et puis là, non, finalement, ils vont oublier ça. Et voilà, ça laisse un demain possible. Et voilà, et ça ouais. passe aussi par les artistes. Voilà.
David, on parle des artistes, on peut évoquer tes musiciens, tout l'ensemble du groupe des Super Soul Brothers.
Ah oui, oui.
Alors, je te laisse les citer ensemble, si tu veux bien. Voilà. Comment vous travaillez ensemble et qui joue avec toi? Tu nous présentes toute l'équipe?
Alors, vous avez à la batterie Fabrice Nicotti, batteur de funk soul incroyable, avec une voix magique aussi. Il chante, il est beaucoup dans les cœurs. Un bastion du blues à la basse qui s'appelle Ludovic Timoteo, qui a beaucoup travaillé avec d'autres grandes effingachettes comme Miguel M, comme Paul Cox, entre autres.
Ouais.
À la guitare, il y a mon compère Pierre-Antoine Dumourat, qui on évolue ensemble depuis 20 ans, que ce soit dans des duos, des choses comme ça, on a toujours travaillé ensemble. Puis on se connaît tous depuis des années. Hein. Vous avez Julien Santo au clavier, qui est vraiment très, 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 très. Il est très, très bon.
Est-ce que c'est pas le musicien le plus influencé par le jazz dans l'équipe?
Entre autres.
Hein,
il est très influencé par le funk, lui.
Ouais.
Voilà. Comme beaucoup dans l'équipe, hein, que ce soit Fabrice ou Ludo. On vient tous du funk. Moi, j'avais on évoluait dans ce qu'on appelle un collectif, en fait, de passionnés, qui s'appelait Groove Project, et qui rendait hommage au funk old school, quoi. Les GBs, etc. Donc, il y a tout ça qui nous unit très fort. Après, vous avez Claire Rousseau-Payens qui est au cœur, qui a une voix magique et un groove incroyable, et qui me seconde, et qui amène une grande fraîcheur. Vous avez le trublion du groupe, avec une énergie incroyable, au Trombone à coulisses,
voilà.
Ouais, qui s'appelle Pat, qui, lui, est incroyable. Voilà. Donc, c'est vrai que visuellement, c'est très fort, cette espèce d'unité forte qu'on a ensemble. Et il y a Greg au son qui est extrêmement important aussi.
Qui est présent dans la plupart de vos prestations?
Quasiment tous, ouais. Il fait la route avec nous, il s'occupe de gérer le son devant pour que tout le monde puisse avoir ce que nous on a dans le cœur et les oreilles. Mmh. Et un maximum de gens peuvent recevoir ça.
Too hot to hate, but no.
David, j'ai une question plus particulièrement par rapport à ta voix. Ça m'a pas forcément frappé quand je vous avais vu sur scène pour la première fois, ni quand j'avais découvert votre album précédent. Mais quand j'ai reçu les pistes du live, hein, qui va sortir en février, j'ai immédiatement pensé à Joe Cocker. Est-ce que je suis le premier à t'en parler ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est des choses qui reviennent souvent, comme Otis reviennent aussi. Enfin, après, je suis nourri, moi, par les choses qui m'ont fait grandir. Joe Cocker, effectivement, en fait partie, notamment tous les premiers albums, Mad Dog and Englishman, le tout premier avec la reprise des Beatles, toute cette période avant les années 80, qui va de 68, on va dire, jusqu'à 74, qui est la période la plus belle, je trouve, de Joe Cocker.
Oui, qui comprend d'ailleurs sa prestation fabuleuse à Woodstock, hein, effectivement, en 69.
Ah oui, qui est immense. Et puis Mad Dog and Englishman, qui est énormissime, de groove, c'est grandiose. Quoi. Et ça, la Blue Eye Soul, parce qu'il fallait trouver un nom. Mais bon, c'est de la soul et très forte, quoi.
Tu évoquais Paul Cox tout à l'heure, hein, lui, il fait partie du même courant, finalement.
Exactement.
Et puis, par rapport à Joe Cocker, si, petite question quand même, David, il t'est arrivé de le voir sur scène ?
Ah oui, plusieurs fois. Ouais. J'ai été le voir, je sais pas, 3 ou 4 fois, et j'ai surtout un souvenir d'un concert fabuleux qui avait eu lieu à Bayonne, aux Arènes, où là, ça avait été vraiment magique. Et après, je trouve que c'est devenu beaucoup plus FM, je vais dire.
Plus variété,
voilà. On va dire. Voilà. Il y avait moins de fougue que
moins,
je pouvais
moins
retrouver,
de sueur, peut-être, chez les pionniers. Moins de sueur sous les aisselles, parfois, on peut dire aussi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu plus à la papa, quoi. Tranquille.
David, si on revient sur l'actualité des Super Soul Brothers, l'album de 2021 est sorti et bien amorti. Et là, il y a un live qui sort. Pourquoi un live ?
Exactement.
Et puis, au départ, mais pourquoi et comment chez Dixie Frog ? Comment est-ce que vous êtes fait remarquer par l'équipe de André Brodsky et François Masson ?
Alors, ils sont formidables, tous les deux, déjà, sans faire de pathos. Je les embrasse très fort. Mais en fait, tout simplement, on avait enregistré notre premier album chez nous, en direct, à l'ancienne. Ouais. On travaille vraiment comme ça, on compose tous ensemble, on se met ensemble dans une pièce, et on va malaxer des grooves jusqu'à trouver une idée, etc. Et puis après, on s'y engouffre tous, chacun y met sa petite pierre, et on écrit tous ensemble. Et ça, c'est génial. Au niveau du symbole aussi, c'est vraiment super fort.
Et alors, comment est-ce qu'ils vous ont remarqué, finalement ? Vous leur avez envoyé des bandes ?
En fait, on a enregistré l'album, on a terminé l'album. Ouais. On tombait en confinement et là en fait moi j'avais du temps et je me suis dit bon ben je vais envoyer ça à l'ensemble des maisons de disques du genre qui sont dans la soul, le blues, donc j'ai envoyé à tout le monde. Et puis en plein confinement un jour j'ai reçu un mail d'André disant on a bien aimé ce qu'on a écouté, est-ce qu'on peut vous appeler cet après-midi, et on s'est retrouvé signé en plein confinement.
Tu leur as dit non moi ça m'arrange pas cet après-midi, tu me rappelleras dans 15 jours.
non c'était vraiment chouette. Et puis je m'attendais pas à ce que ce soit Dixie Frog qui réponde et qui donne un demain à tout ça, parce que là on était entièrement fermé. Faut se remettre dans le contexte, l'ensemble de la musique et de l'art en général était à l'arrêt total. Il n'y avait rien, et c'était l'inquiétude pour tout le monde. Et nous, on nous a amené cette bouffée d'air avec de l'engagement. Je ne pourrais jamais l'oublier. Quoi. Voilà.
Et alors, l'album live qui sort en février, là, pourquoi un album live déjà en deuxième partie de discographie ?
En fait, ce que voulaient André et François, c'est que les gens puissent découvrir la puissance scénique du groupe aussi sur du live, en fait.
Voilà.
Là c'est un one shot, il n'y a pas de retouche, il n'y a rien, il n'y a pas de bidouille.
Et ça a été enregistré dans le même concert ou sur plusieurs concerts différents?
Même concert. Tout est le même concert.
Énorme.
Dès qu'on a su qu'on était chez Dixie Frog, en fait, tous ces mois d'arrêt, on s'est mis au travail, quoi. Que le show soit à la hauteur de ce qu'on avait pu produire. Voilà.
David, on a compris à travers tout ce que tu dis, David Noël, David Nono, limite, hein, on est d'accord, c'est longtemps ton surnom. On a pu découvrir lors du dernier Cognac Blues Passion un garçon qui a été signé lui aussi récemment chez Dixie Frog, qui s'appelle Grant Awa. Et dans les valises de Grant Awa, il y avait une chanteuse qui s'appelle Delaney Ututaonga, que tu as rencontrée et avec qui tu as enregistré un duo qui va sortir sur son prochain album, qui sort également également en février, toujours chez Dixie Frog. Je voulais savoir quelle était l'histoire de ce duo et de ce morceau en particulier, David.
En fait, on s'est rencontrés avec Grant bien avant Cognac.
Ouais.
On s'est retrouvés à chanter ensemble au Telonius à Bordeaux, en fait, où on l'avait invité à venir rejoindre le Super Soul pour partager. Puis ça a matché. Humainement, c'est quelqu'un de magique et je me retrouve dans ses valeurs. J'ai l'impression que c'est la version Nouvelle-Zélande
de nous. En antipode.
Ça paraît logique.
Ouais.
Donc, on a parlé musique et qu'on a échangé, etc. Et un jour, j'ai reçu une demande de Grant disant, voilà, j'ai écrit une chanson à Delany, son premier album. Est-ce que tu peux poser ta voix?
Énorme. Ah oui. Et qu'est-ce que tu as ressenti en lisant ce message de Grant là qui te dit je te fais pas seulement confiance, je te veux sur ce duo.
Mais j'étais très emballé et ça m'a vraiment touché quoi. Ça m'a beaucoup touché. Et puis la chanson elle est magnifique.
Ah oui.
Il y a aussi ça. Au 60, on se dit waouh, c'est voilà. Et je pense que André et François ont dû penser que sur ce titre-là particulièrement, les deux voix se marieraient bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis tout mon cœur sur Please, parce que le texte est très très beau.
Et en plus, il y a un clip qui est formidable, qu'on peut voir sur YouTube notamment. Et là, il y a une vraie histoire. Vous êtes un couple, Delaney et toi.
Exactement, un couple séparé. Plan crise.
Ouais.
On demande si on peut retomber amour une autre fois. Mmh. Donc oui, c'est puis Delaney a une voix incroyable.
Ah oui.
Elle a de la soul, parce que moi j'aime beaucoup les chanteuses qui ont pas trop de simagré, quoi, qui vont au cœur du sans trop de vibe.
Oh, tu sais, David, quand on habite dans le sud-ouest, simagré, on les refuse jamais en fait, en général.
Non, c'est vrai.
Hein, quand même.
C'est vrai, surtout si on est six à manger.
Ben voilà. ça se partage, hein, l'amitié, la musique et la bouffe, hein, on est bien d'accord.
C'est ça. Woman, she told me then I was only half a man. Then I left the other half in some make-believe land, because I was tired of living only half alive. The other half drowned in bloodshot eyes. Can anybody help us to fall in love again? Can anybody help us, please? So yeah, I try to live the life she wants. We've grown apart for the longest time.
Can anybody help us? Can anybody help us?
Alors effectivement, des artistes simples et qui donnent tout. Grant Tower en fait partie, tu l'as dit, de l'année où tout a honga également. Et puis les Super Soul Brothers dont tu assures toutes les parties de chant. On peut dire que tu es également le leader charismatique des Super Soul Brothers, David, hein, c'est ça?
Je me qualifie pas comme leader, mais moi plutôt comme une dynamique. En fait, tu es un phare, j'essaie de...
Non, j'ai pas dit videur, j'ai dit leader.
Bah, tu sais, tous les frontmen sont un peu mis en avant, mais bon, on avance tous avec le même pas. Voilà.
La
force des Super Soul, en fait, c'est d'être unis comme ça.
C'est ça, on le sent bien de toute façon.
Chacun a son importance. C'est ce qui fait le son et cette espèce de couleur et de force qu'on peut nous reconnaître, parce qu'on y a mis vraiment tout notre être, notre côté du palois, sud-ouest, montagne. Enfin, on entend tout ça et voilà.
David, une dernière question par rapport à l'avenir. L'album, on a dit, sort au mois de février, l'album live. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à toute la formation, à toute l'équipe de Super Soul Brothers pour 2023 et puis les mois qui suivent?
Beaucoup de rencontres sur festivals et concerts un peu partout en France et ailleurs. Un maximum, et puis venir nous voir, et se rencontrer, discuter, prendre le temps. Pas seulement que de la musique, mais l'après... Là-bas, moi, j'adore parler avec les gens et les rencontrer et puis voir leur fou rire et tout ça, c'est ultra important. Et voilà. Et puis en février, nous, on va s'enfermer, on va commencer à enregistrer le second studio.
Là, ah ouais,
on
très
a
bien.
Beaucoup, beaucoup de chansons, donc il y a beaucoup. Voilà. Donc là, on va se mettre au travail pour avoir un maximum de chansons et faire un excellent second album
studio
dont on sera fiers et qui correspondra à tout le groupe aussi.
David, est-ce qu'il y a moyen de savoir à quel endroit vous allez vous produire dans les mois qui viennent, cet été? Est-ce qu'il y a des festivals? Est-ce qu'il y a une trace sur Internet, quelque part, un site, les réseaux sociaux? Comment on fait?
Alors oui, on a Facebook, The Super Soul Brothers Band, où vous avez toutes les dates assez régulièrement. Voilà, il y a un Instagram aussi, donc il suffit de se mettre sur les deux. On a mis une passerelle, comme ça on voit nos dates. On a trois rendez-vous importants. Il y en a un qui a lieu à Bordeaux, pour les Bordelais, au Thelonious, où on jouera sur la scène Thelonious le 14 janvier. Ensuite, on a un grand live avec la radio France Bleu qui aura lieu le 24 à Lons, à l'espace James Chambaud. C'est une très belle salle. C'est un live qui sera capté et qui sera diffusé après sur l'ensemble du réseau France Bleu. Dernier, c'est le plus important, le lendemain de la sortie du live, The Road to Sound Live, qui a lieu le 17 février. Le 18, on sera sur scène pour fêter ça. Une release partie de fou dans l'endroit où a été enregistré ce live qui s'appelle La Route du Son, d'où le titre The Road to Sound. Et ça, c'est le 18 du côté de La Route du Son, Ampli, Bière. Ça, c'est les trois plus proches et plus importantes. Et ensuite, on n'hésitera pas de t'envoyer régulièrement.
Tout à fait, avec plaisir.
Les endroits où nous sommes.
Exactement. David, merci pour tout ça.
Merci à toi, Marc, pour
le mot de la fin. Je vais te laisser le mot de la fin, David, parce que j'aime bien quand les invités font leur propre conclusion. Je voulais juste te remercier pour toute ta passion et puis toute ta générosité, ta gentillesse et puis votre belle musique. Les Super Soul Brothers, en tout cas, c'est le genre de musique qui peut nous éviter un petit peu 1h40 ou 2h de grisaille dans notre vie parfois compliquée.
Merci, Marc, et je peux te dire la même chose. Merci pour ta passion. Merci de relier les choses. Puis vive la soul, en fait. Vive la soul. Je crois qu'on a besoin de... C'est une musique qui est vraiment un marqueur, qui l'a été avec les droits civiques aux États-Unis. Et maintenant, on est dans une position et une incompréhension du monde tellement forte que ça permet de réunir les gens et d'y mettre, comme disait le philosophe à l'idée, les joies et les peines.
Super. Merci, David. Merci à toi. À très bientôt sur la route.
À tous.
Au revoir.
À très bientôt.
Au revoir, David. Merci.
Ciao.
Tout le monde va bien? Let's make some soul music, yeah!
Merci à toi, David, et à bientôt sur la route de la soul et du blues. En attendant, voici Joe Cocker, un morceau que vous connaissez tous. C'est bien sûr Unchain My Heart, repris au répertoire d'un certain Ray Charles.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart.
C'était Joe Cocker en 2002 à Cologne Live au Limelight, Unchain My Heart avec Mick Milo au keyboard, Gene Block à la guitare, Jack Bruno à la batterie, Onalda James à la basse, Derek Dyer au sax et Maxine Green ainsi que Amy Keys aux backing vocals. Allez, voici cette séquence 50 Years After. Maintenant, on revient en 1973 avec, vous l'avez compris, Pink Floyd, extrait de The Dark Side of the Moon. Ça s'appelle Us and Them. 1973, Pink Floyd, l'album le plus vendu dans le monde par un groupe, juste derrière Back in Black de AC/DC. Pink Floyd, grâce à Thierry Langrand qui nous avait fait en première heure ce My Rockers numéro 19 à propos de The Great Gig in the Sky. C'est ainsi que se termine le 1177e Sweet Home Chicago. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. La rubrique Beatles Song Story numéro 20 par Jackie Emery, Fred Chapelier pour son actualité et puis Vincent Boyer pour sa carrière et son actu. Salut, bye bye.